Alors, Alex Castonguay, chef du bureau politique au magazine L'Actualité. Antoine Robitaille, chef du bureau d'enquête parlementaire du Journal de Montréal et de Québec. Bonjour à vous deux.
Bonjour, bonjour.
On a vraiment un gros programme. On entendait il y a un instant Justin Trudeau, donc, qui confirmait que le Canada allait signer le fameux partenariat Trans-Pacifique, qui est une espèce d'entente de libre-échange dont Alex va nous parler dans un instant. Juste avant, c'était François-Philippe Champagne, son ministre du Commerce international. Alec,
oui.
C'est un peu le plan B dont on avait beaucoup parlé. On était sur le point de signer cette entente-là quand Trump est arrivé. Trump a décidé de retirer les États-Unis du fameux partenariat transpacifique.
Oui.
Mais les autres pays, visiblement, ont décidé d'aller de l'avant. Et là, le Canada a décidé d'embarquer. Fait que là, il va y avoir une espèce de libre-échange des pays qui ont en commun
Le Pacifique.
Le Pacifique.
Moins les États-Unis, comme
voilà.
Tu le dis. Donc,
exactement.
Il en reste 11 de ces pays-là. Le Canada en fait partie. Le Japon étant la plus grosse économie de cette nouvelle zone-là qui va être créée, la troisième économie mondiale. Puis ensuite, il y a le Canada, on le disait, le Mexique, le Chili, le Pérou, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Malaisie, le Vietnam, Singapour et le Brunei qui sont les autres pays de cette zone.
J'entends pas la Corée. La Corée pas là?
Non, je l'ai pas, la Corée. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec,
okay.
Avec la Corée, mais ils ne sont pas pour l'instant, du moins, les signataires de cette entente-là, qui devrait être signée en mars, que c'est un accord de principe. Là. On a envoyé une délégation canadienne à Tokyo dans les derniers jours, là où se négociait le Transpacifique. Puis semble-t-il qu'on a fait des concessions du côté des 10 autres pays, parce que le Canada voulait des concessions.
Est-ce que la gestion de l'offre est affectée par l'entente?
Elle était déjà affectée dans la première entente.
Oui, il a augmenté un peu les contingents.
Oui,
hein?
Parce que la Nouvelle-Zélande et l'Australie, qui sont des gros exportateurs, notamment de lait, veulent avoir davantage accès au marché canadien. Et d'ailleurs, Stephen Harper avait annoncé un projet de compensation des producteurs de lait, parce qu'effectivement, on ouvre un petit peu le marché. Rien de comparable à ce que les États-Unis souhaitent. Là. Eux, ils souhaitent mettre la hache dans la gestion de l'offre en matière d'œufs, de volaille et de lait. Mais oui, on va l'ouvrir un petit peu. J'imagine que si l'entente est semblable à celle qu'on avait, parce qu'on n'a pas les détails encore. Mmh. On sait que le Canada voulait des modifications sur l'environnement, la propriété intellectuelle, la protection de la culture. C'était très important. Donc, on dit que là, c'est protégé à 100 % les tarifs pour la construction des voitures. Le Canada devenait le deuxième plus gros joueur en matière de construction de voitures de cette zone-là, maintenant que les États-Unis sont retirés du partenariat, donc
ouais.
Avec le Japon.
Ouais.
Alors, on voulait que ça se reflète, qu'il y ait des davantage de latitude donnée aux constructeurs de voitures établies au Canada. Paraît-il que ça va être le cas. Donc, on a obtenu des modifications qui font en sorte que là, on est à l'aise de signer cette entente-là. Je peux te faire entendre un extrait de Justin Trudeau, parce qu'il a commencé son discours à Davos sur cette annonce-là. Alors, voici ce qu'il avait à dire un peu plus tôt aujourd'hui.
Je suis heureux d'annoncer aujourd'hui que le Canada et les 10 autres membres de l'accord de partenariat transpacifique, global et progressiste ont conclu leurs négociations à Tokyo. Cet accord est un bon accord pour les Canadiens, car il créera de l'emploi et de la prospérité pour la classe moyenne. Nous sommes fiers d'être arrivé à un accord unanime avec tous les partenaires sur la culture et d'avoir réalisé du progrès pour le secteur automobile et la propriété intellectuelle.
Bon. Alors, OK. Ça, c'est très intéressant. Et je vous le dis, là, les auditeurs, là, vous allez entendre parler d'un prochain jour, d'une prochaine semaine, parce que c'est très important. Là. Ça fait un peu de technique. Vous allez me dire encore une entente là, de libre-échange. Mais je vais vous dire, ça va nous toucher dans nos vies.
Et comme tu le disais, Bernard, d'entrée de jeu, tu dis que ça fait un peu partie du plan B du Canada.
Oui.
Entre autres parce que dans cet accord-là, il y a le Mexique.
Oui.
Et si les États-Unis décident de se retirer de l'ALENA, tout le monde s'est demandé, est-ce que le Canada fait front commun avec son allié mexicain? Qu'est-ce qui se passe avec nos relations commerciales avec le Mexique?
Ils viennent de le faire d'une certaine façon.
Visiblement, on n'aurait plus à rien renégocier avec le Mexique. C'est-à-dire qu'on pourrait effectivement juste laisser le partenariat transpacifique prendre acte et ensuite négocier directement avec les États-Unis pour peut-être un autre accord de libre-échange bilatéral. Au lieu d'être trois, le Canada n'a plus besoin de négocier quoi que ce soit avec le Mexique. Il vient d'en avoir une entente.
Ça, c'est très intéressant ce que tu dis. C'est très intéressant.
La porte de sortie étant que si les États-Unis disent on largue le Mexique parce que c'est notre plus gros problème avec l'ALENA puis on se concentre juste sur le Canada.
Le
Canada,
commerce entre le Canada et le Mexique est déjà assuré
par le partenariat
transpacifique.
Voilà.
Et il nous reste toujours l'entente bilatérale Canada-États-Unis signée entre Mulroney et les États-Unis.
Moi, je pense que ça a joué dans la volonté canadienne qui était timide là, dans les derniers mois de signer le partenariat transpacifique en se disant, ben là, le Mexique étant un gros joueur, là, on a besoin de garder nos frontières ouvertes avec le Mexique. Alors, on va y aller.
Là, je vois arriver Loïc Tassé, notre spécialiste des questions internationales qui vient de se pointer en studio parce que Loïc est un grand spécialiste de l'Asie.
Bonjour Bernard.
Bonjour Loïc. Alors merci d'arriver comme ça à brûle pour point.
Ça me fait vraiment plaisir.
Tu souhaites ajouter quelque chose pour notre compréhension?
Ben oui, je peux dire quand même. Écoute, je pense que globalement c'est intéressant pour le Canada, surtout dans le cadre des négociations de l'ALENA. Ça va être beaucoup plus facile de négocier ça en sachant que le Canada maintenant dispose de ses accords. Mais
on s'est donné une espèce de
route de secours.
Oui, la route de secours. Voilà, c'est la police d'assurance.
Mais
oui.
Je suis un peu sceptique par rapport à cet accord transpacifique. Je te signale qu'aux États-Unis, il y avait unanimité contre ce traité-là, tant chez Mme Clinton que, par exemple, chez bien entendu, Trump, Donald Trump. Tout le monde était contre. Pourquoi? Et c'est ici que la question est un peu plus délicate. C'est pas juste une question de tarifs. C'est que le problème, c'est que ces pays avec qui on vient de signer ont souvent un protectionnisme naturel. Pense au Japon. Le Japon a des keiretsu. C'est des immenses conglomérats qui contrôlent 70% de toutes les entreprises d'import-export. Ces gens-là jouent souvent contre le gouvernement. Ils n'ont pas vraiment besoin de tarifs pour protéger leur marché. Est-ce qu'on est réellement arrivé à protéger ça? Le Vietnam! Est-ce que dans cet accord-là, on va contourner la force du Parti communiste vietnamien? Moi, j'en doute beaucoup. En revanche, nous, on a ôté des tarifs, on a abaissé des tarifs, on a ôté notre bouclier. Donc, je me dis, attention.
Disons, c'est un peu déshabillé devant des États qui ne sont pas des États démocratiques, qui sont des États, ben, dans le cas du Vietnam, qui est encore un État officiellement communiste.
Absolument.
À parti unique. Et donc, tu dis, les règles du jeu dans le cas du Vietnam et pour des raisons différentes dans le cas du Japon, nous désavantages.
Elles sont différentes. On a un désavantage naturel. Donc, bon. Je vais regarder ce qu'il y a dedans. Écoute, je ne l'ai pas lu encore, donc je ne peux pas commenter plus que ça. Mais disons que je suis très méfiant par rapport à ce genre d'accord. D'autant plus qu'au Japon, si on dit, là, le Japon, grand marché qui s'ouvre. Attends, le Japon, c'est un marché, c'est en pleine dénatalité, le Japon. L'économie du Japon se contracte depuis 20 ans. C'est un marché qui se rétrécit, le marché japonais. Donc, c'est les Japonais qui ont besoin de nous, pas nous qui avons besoin du Japon.
Oui, mais t'as un peu l'œil, là.
On leur envoie un peu de sirop d'érable.
Ils sont combien? Oui, on leur vend du porc, on leur vend du sirop d'érable.
Oui, ils sont 125. Non, mais on est déficitaire. Ils sont 125 millions à peu près en ce moment au
Japon.
Ça
reste quoi, la troisième ou la quatrième?
C'est la quatrième puissance économique au monde.
Ben oui, ben là, moi j'aime mieux. Si c'est pour foirer avec Trump, j'aime mieux qu'on ouvre des marchés comme le marché japonais, même s'il est dur à pénétrer. Je suis d'accord avec toi, il est dur à pénétrer.
C'est pour ça que je te dis, j'aime mieux pénétrer le marché japonais. C'est plus facile de rentrer dans le marché japonais, de bien y rentrer, que dans le marché chinois ou le marché vietnamien. Mais c'est pour ça que je te dis, quand même, gardons une petite gêne, regardons ce qu'il y a là-dedans et sortons pas tout de suite les violons et le champagne. C'est pas nécessairement le temps de célébrer tout de suite.
Sais-tu quoi? On est bien parti sur le partenariat. Antoine, t'es toujours là?
Ben, certain.
Antoine, je t'oublie pas. Je
trouve ça passionnant.
Voilà, exactement. Je trouve ça tellement passionnant qu'on va vider la question, justement, du partenariat.
Je te reconnais, là.
Et sais-tu, on va faire donc encore quelques minutes là-dessus avec Loïc. Et après ça, on va revenir à notre bloc politique qui était prévu. Donc, ne désespère pas, Antoine, OK?
Désespère pas du tout. J'apprends beaucoup.
Ben voilà.
Quand on a un Loïc sous la main, il faut s'en servir.
Alors, Loïc, je veux te poser l'autre question. Parce que au départ, le partenariat transpacifique, ça avait été imaginé, conçu pour faire contrepoids aussi, oui, pour des raisons évidentes, géostratégiques, à l'émergence de la Chine comme puissance économique.
C'est
d'ailleurs
exact.
Vous aurez remarqué que la Chine ne fait pas partie des pays signataires. Et ça a été vraiment... Et l'administration Obama, notamment, le voyait comme ça. Disait le Canada, les États-Unis, le Mexique, le Japon, on va se constituer en zone de libre-échange et on va être capable, d'une certaine façon, de concurrencer avec les Chinois. Est-ce que tu penses que... Est-ce que ça milite pas, justement, pour l'accord, ça?
Ça allait un petit peu plus loin que ça. Ce qu'on voulait... dans le premier traité transpacifique, c'est fixer les règles d'avance pour ensuite demander éventuellement à la Chine de rentrer en disant ben, « si vous voulez rentrer, ce sera à nos conditions. Il n'y aura plus de négociation. » Et il est toujours question que la Chine rejoigne le traité transpacifique. Mais c'est le même problème avec la Chine qu'avec le Vietnam. Il y a un parti communiste en Chine qui contrôle une grande partie du marché chinois. Et d'ailleurs, au Québec, on a un problème avec ça. On en parlait hier. On reçoit beaucoup d'importations de Chine, mais on a beaucoup de difficulté à percer le marché chinois. Les Chinois exportent au Québec 4 fois plus que nous, on exporte en Chine. C'est un problème qu'on a depuis des dizaines d'années, puis on n'est pas les seuls. Tous les autres pays industrialisés ou à peu près ont ce problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Et c'est vrai, tu as raison, cet accord-là a été constitué contre la Chine, d'une certaine manière. La Chine, qui est la première économie au monde, en parité de pouvoir d'achat, je le rappelle, c'est 22 000 milliards de dollars. Les États-Unis sont à 19 000 milliards de dollars.
Ils sont déjà numéro un, les Chinois, là.
Ils sont numéro un. Et ils grandissent. Ils vont être le tiers de l'économie du monde d'ici 2025 ou quelque chose comme ça, en parité de pouvoir d'achat. C'est énorme. Donc, on ne peut pas faire sans les Chinois. Et on a un problème avec ces
Chinois.
On ne
peut pas faire sans, mais on ne peut pas faire avec.
C'est ça, le problème. C'est parce que le gouvernement chinois, en ce moment, sous Xi Jinping, se remaoïse. Il y a une espèce de néo-maoïsme en Chine. Et c'est un marché qui est naturellement très protectionniste. Ils acceptent, bien sûr, nos matières premières. Ils acceptent nos produits agricoles qu'ils ne peuvent pas produire. Mais pour rentrer là des produits de haute technologie, c'est très, très difficile. Bombardier y est arrivé. Mais tu vois ce qui arrive avec les avions. On leur a envoyé des avions parce qu'ils n'en avaient pas. Et maintenant, ils commencent à produire leurs propres avions. Et d'ici quelques années, c'est eux qui vont inonder le marché mondial avec les avions.
Et ce qui est intéressant dans ce qui commence à filtrer là, de ce nouvel accord du partenariat transpacifique, c'est que tous les pays ont un droit de veto individuel sur les nouveaux pays entrants. Donc, ça veut dire que n'importe quel des 11 signataires actuels peut refuser qu'un nouveau pays s'y joigne.
Donc, le Vietnam pourrait refuser que la Chine arrive.
Ou le Japon.
Ou le Japon.
Ou le Japon, qui a une concurrence naturelle avec la Chine depuis très longtemps, pourrait dire, et ça renforce ce que Loïc disait en disant, si on met en place des règles et qu'on dit à la Chine, venez sous nos conditions, ben là, en plus, n'importe quel pays peut dire, ben non, je trouve que la Chine ne vient pas suffisamment à nos conditions, donc ils ne vont pas rentrer dans l'accord. Donc, on a clairement donné un droit de veto à des pays comme le Japon, entre autres, alors que si tous les autres pays disent, ah, c'est génial, la Chine, on les fait entrer dans le partenariat, et le Japon dit non, ben la Chine ne peut pas y entrer.
C'est quand même, quand on prend un peu de recul, là, dans les dernières, quoi, deux années, Alec, le Canada a signé une entente de libre-échange avec l'Europe. Là, on s'apprête à signer une entente de libre-échange avec la zone du Pacifique.
On peut ajouter la Corée du Sud, certains pays d'Amérique latine aussi.
Ouais. Ben, écoute, si Trump veut nous niaiser, là, comme ça semble être le cas, puis il
faut le contourner.
Il faut pas oublier. Ben voilà, mais, Antoine, il faut le contourner.
Mais c'est pas juste nous qui faisons ça. Et ce qui est en train de se produire, c'est que les États-Unis sont en train de s'isoler sur la scène internationale. On le voit de plus en plus dans tous les domaines. Il y a un certain isolement des États-Unis. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui s'en inquiètent aux États-Unis même. Mais c'est vraiment ce à quoi on assiste en ce moment. Les circuits économiques se réorganisent sans les États-Unis. Et non, ici, avec le traité transpacifique, on en a une preuve tangible.
Alors Loïc, je vais te laisser aller parce que il faut préparer la chronique qui va venir tout de suite après celle de Alec et Antoine. Et on pourra, si tu veux, terminer cette discussion-là.
On se revoit tout à l'heure.
On se revoit tout à l'heure. Et juste avant d'aller à la pause, Alec, tant qu'à faire le commerce international, faisons-le correctement et terminons donc sur le fait que les négociations, pendant ce temps, les négociations sur l'ALENA se déroulent à Montréal. Oui. Il y a encore un espoir qu'on arrive à quelque chose, même si...
ça va être difficile, mais il y a un espoir. Il y a toujours un espoir.
Tant qu'on se parle, il y a un espoir.
Oui, et vous entendiez le ministre du Commerce international, François-Philippe Champagne, en introduction de la chronique, qui disait, écoutez, on se prépare à tout, même au pire, mais on espère qu'il y a des progrès qui soient faits à Montréal. Puis ça se produit, ça se passe juste à côté d'ici de la station. Hein? C'était à l'hôtel Bonaventure, qui est transformé en bunker, évidemment, parce qu'on a des centaines de délégués là, qui négocient à 30 tables de négociation
différentes. Il y a de la police.
Puis tout le monde a l'impression que c'est un peu ça passe ou ça casse là, actuellement. Parce que, bon, sans prendre ça au pied de la lettre, on a l'impression que s'il n'y a pas de progrès suffisant, peut-être dès la semaine prochaine, lors du grand discours de l'Union de Donald Trump, il pourrait annoncer qu'il déclenche la clause de retrait de l'ALENA, le préavis de 6 mois. Et donc, il faut qu'il y ait suffisamment de progrès à la table de négociation pour peut-être retarder cette décision américaine-là. Mais on aborde, et pourquoi c'est très important, on aborde tous les sujets litigieux là, à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche en fin d'après-midi. Les gros sujets, là, ce qui bloque depuis des mois, sont tous sur la table. Là. La clause crépusculaire, le fait que les États-Unis veulent qu'après 5 ans, l'ALENA tombe automatiquement, à moins que les 3 pays s'entendent pour le renouveler, ce que veut absolument pas le Mexique et le Canada parce qu'ils disent que ça met énormément d'incertitudes pour les entreprises. La gestion de l'offre, on en parlait en matière d'agriculture, les œufs, le lait, la volaille qui sont protégés au Canada, les Américains veulent y mettre fin, on va en discuter. La composition des voitures automobiles, la provenance des pièces, c'est sur la table. L'ouverture des marchés publics, la propriété intellectuelle, le chapitre 19 sur la résolution des différends entre pays. Bref, tout ce qui va mal à la table là, depuis, mettons, le mois d'octobre, devrait être discuté cette semaine, ce qui va nous donner une bonne mesure d'à quel point on est capable d'être créatif puis d'avancer sur certains domaines, alors que si on est complètement bloqué après les 6 jours là, qui s'entament aujourd'hui, ouf, là, je donne pas cher de la peau de l'ALENA dans les prochains mois. Donc, c'est vraiment là, ce qui se passe à Montréal actuellement en matière de commerce international, quelque chose de très, très important.
Je comprends. Alors, on va s'arrêter et au retour, Antoine, tu vas nous parler de cette baisse de taxes scolaires généralisée que la CAQ nous promet. François Legault en a pris un engagement ce matin. Tu vas nous résumer ça parce que là, ça va toucher...
Ça sera pas gratuit, ça, pour l'État du Québec.
Ah! Bon, ben tu nous diras ça dans un instant.
On en parle.
Alors, de retour avec Alec Castonguay et Antoine Robitaille. Antoine...
Oui.
C'est le caucus de la CAQ. Deuxième journée, ça se termine aujourd'hui. Hier, c'était plus la santé avec monsieur le docteur Carman. Et là, aujourd'hui, la CAQ qui décide...
L'éducation. Ouais.
Et voilà, l'éducation. Et là, ils annoncent une baisse de taxes scolaires générale pour tous les Québécois.
C'est surprenant. Puis d'ailleurs, plusieurs observateurs le faisaient remarquer. C'est-à-dire que la CAQ avait dit « on va prendre nos grands engagements après le budget du Québec. Question de savoir un peu quelles sont les marges de manœuvre. » Là, ce matin, il nous arrive avec un gros engagement. Vraiment, là, c'est pas rien. Là. Il va uniformiser le taux de taxe scolaire partout au Québec.
Ouais.
C'est-à-dire que le gouvernement a déjà fait un bout de chemin. Le 7 décembre dernier, il déposait le projet de loi 166 où on disait qu'on allait faire un taux unique régional.
C'est ça.
Là, on va prendre, avec la coalition Avenir Québec, on prendrait le plus bas taux en vigueur actuellement, c'est-à-dire 10,54 cents, puis on l'appliquerait partout au Québec.
Exact.
Alors, on peut écouter François Legault.
10,54 cents du 100 piastres d'évaluation.
Oui, c'est ça. Excuse-moi. Exactement. Oui, merci de préciser. On peut écouter François Legault. On a trois extraits. D'abord, un extrait sur sa promesse en général.
Un gouvernement de la CAQ va s'assurer que le taux de la taxe scolaire soit le même dans les 17 régions du Québec sur une période de 4 ans.
Okay. Oui, ça va se faire sur 4 ans. Ça, il faut bien noter. C'est-à-dire qu'au départ, on appliquerait la loi, si elle est adoptée, là, 166 du gouvernement libéral. Mm-hmm. Puis ensuite, on irait tranquillement vers une uniformisation totale sur 4 ans, parce que ça a des coûts, tout ça. Là, hein? Et on peut l'écouter, François Legault, sur le taux de la taxe de 10,54 cents sur le 100 $ d'évaluation.
C'est que nous, à la CAQ, on croit à l'équité entre les régions, on croit à l'équité entre les citoyens et on veut s'assurer que tout le monde paye le même taux de taxe et le taux de taxe qu'on va mettre en vigueur sur 4 ans, c'est le taux de taxe le plus bas, c'est-à-dire 10,54 par 100 $ d'évaluation.
OK, et là, ça enlève beaucoup d'argent. Ben. Dans le système, comment on va financer l'éducation de cette manière-là? La question y a été posée, il a répondu ceci.
On voit que le gouvernement du Québec a un surplus de 2,5 milliards. Le double du surplus de l'année précédente pour le même nombre de mois. On le sait aussi qu'il y a des économies à faire, entre autres en informatique. On va vous arriver aussi avec un plan économique au cours des prochains mois qui va accélérer la croissance économique, donc l'entrée de revenus pour le gouvernement du Québec. Donc, oui, c'est possible de réduire les taxes scolaires et de mieux financer nos services en éducation.
Mais globalement, là, ça veut dire un engagement d'1,37 milliard. Il n'y a pas attaché tous les fils encore, mais c'est un gros engagement. Puis je vais te dire, le surplus, là, je pense qu'on pourrait... énoncer une règle, Bernard. Un surplus en règle électorale, en année électorale, c'est comme un poulet qui se fait plumer. Hein?
Mais dans ce cas-ci, ce qui se fait plumer, c'est est-ce que c'est la capacité fiscale du gouvernement de continuer à bien financer le réseau de l'éducation? C'est ça la question. Les autres, ils disent que non. Puis
déjà, là, la réforme du gouvernement entraîne une baisse de revenus d'environ 670 millions. Donc, ça prend une compensation. Et là, on va chercher 670 millions d'un surplus. Puis, c'était même pas inscrit dans la mise à jour budgétaire. Et après tout, ça a été déposé le 7 décembre. La mise à jour a eu lieu en novembre. Donc, quand je te dis là, que le surplus est en train d'en manger toute une. D'ailleurs, il y a un auditeur qui m'a écrit tantôt. Il m'écrit « Tous les partis politiques québécois sont prêts à dépenser la marge de manœuvre alors que tous savent que le nouvel accord avec les USA va avoir des impacts négatifs sur notre économie. Sur quelle planète vivent-ils?
C'est un très bon point.
Oui, je trouve que c'est un bon point.
Mais je peux-tu te demander, Antoine, tu disais la CAQ, sa proposition de ramener ça à 10,5 cents du 100 piastres là,
ouais,
va coûter 700 millions. Ça va être, oui. En fait, tu dis c'est une baisse de taxes de 700 millions.
Oui, c'est ça.
Mais tu dis à terme, ça va coûter 1,3 milliard, j'essaie
de... Oui, parce que graduellement, là, sur une période de 4 ans, on va se rendre aux 10,54 cents.
Ah, OK.
Puis ça va dépendre... Là, il va y avoir toutes sortes d'uniformisation qui vont se faire partout, là. Puis, sais-tu quoi? Les grosses économies, c'est au Saguenay, Lanaudière, Mauricie.
Oh, des champs de bataille.
Ça tombe bien, hein?
Ben oui.
Donc, ça fait partie d'une promesse électorale, puis on veut faire des gains assez clairs. Dans le communiqué, d'ailleurs, on évoque ces régions-là. On dit comment justifier actuellement, avec le projet de loi libéral, qu'un citoyen de la Mauricie ou du Saguenay-Lac-Saint-Jean paie un taux 3 fois plus élevé qu'un citoyen d'une autre région. Puis ça, c'est une solution libérale de broche à foin, dit François Legault dans son communiqué, puis aussi dans sa conférence de presse. Il faut uniformiser au complet.
Il faut savoir, là, on passe dessus des fois vite, parce qu'on est un peu dans notre bulle, mais la Mauricie, chers auditeurs, là, les 4 comtés de la Mauricie aux prochaines élections, ils vont être âprement disputé. Actuellement, c'est libéral d'un bout à l'autre, mais François Legault a les yeux sur ces 4 comtés-là. Évidemment, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, je n'ai pas besoin de vous dire.
Il y en a pas un qui disparaît aussi.
Oui, c'est ça, il passe de 5 à 4, exactement.
C'est ça, 5 à 4.
Saguenay-Lac-Saint-Jean, actuellement, c'est 4 comtés péquistes, 1 comté libéral. Pas besoin de vous dire, si Legault pouvait aller en chercher un ou deux là-bas, il serait bien heureux.
Et là, puis je te dis que le premier ministre travaille fort sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Hein?
Ben oui.
Des annonces à toutes les semaines. Ah, c'est sa région.
Hein? Attends, je me suis trompé. J'ai dit un libéral, 4 péquistes. En fait, c'est 2 libéraux parce que Dubuc, évidemment, ben est oui, libéral. Alors, tu as 2 comtés libéraux.
Je pensais
libéraux
que tu avais exclu la Côte-Nord. OK, OK.
Non, non, non. Sur les 5 au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est 2 comtés libéraux, 3 comtés péquistes. C'est évidemment, ça, avec l'annonce d'aujourd'hui, ils yeutent ces comtés-là, Legault. Et puis, ben, Lanaudière, c'est le 4-5-0. Si la CAQ ne ramasse pas le 4-5-0 quasiment au complet, ils ne peuvent pas prendre le pouvoir. Fait que c'est bien certain que Lanaudière, puis les Laurentides, puis les Montérégie, ils vont les ménager bien gros.
Voilà.
Bon, intéressant. Tu voulais nous parler aussi d'une volte-face de la CAQ sur le projet de loi de l'UPAC?
Mais ils ont cafouillé pas mal là, sur le projet de loi 107. Ce projet de loi-là vise à donner plus de pouvoir à l'UPAC, c'est-à-dire qu'il crée, il fait de l'UPAC un corps de police indépendant, mm-hmm, puis il ajoute à ça un comité de surveillance de l'UPAC en même temps, dont les membres sont nommés par l'Assemblée nationale aux 2/3. Or, la Coalition Avenir Québec a toujours dit, ben c'est pas les membres du comité de surveillance qu'on veut aux 2/3, c'est le patron de l'UPAC lui-même. Mais là, ce matin, il y a M. Spénard, André Spénard, le porte-parole en matière de sécurité publique, qui a dit dans un point de presse que, bon, c'est bon ce projet de loi-là, on va l'appuyer. Mais finalement, c'est François Legault qui l'a contredit, qui a dit non. On va voter contre le projet de loi 107, à moins que tu sais qu'on ait ce qu'on veut là-dedans, c'est-à-dire la nomination du patron de l'UPAC aux 2/3.
Oh boy.
Monsieur Spénard a été obligé de se ravaler et de dire non, je voulais dire on va voter pour le principe du projet de loi. Alors, c'est assez délicat, mais tu sais, c'est ça la politique aussi.
Ben oui, des fois, c'est, qu'est-ce que tu veux, il y a des erreurs, hein, des erreurs du
pitcher. Un peu trop d'enthousiasme chez M. Spénard.
Il est arrivé, il était trop sûr de son affaire. Avant d'aller à la pause, il faut quand même, c'est un dossier très important, les auditeurs. Vous avez vu ce qui s'est passé à Lac-Mégantic, là? Les 3 accusés qui ont été acquittés, puis je ne veux pas revenir là-dessus. Moi, je pense qu'il y a une certaine sagesse dans cette décision-là, même si ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Imaginez-vous, vous êtes un parent là, d'une des personnes qui est morte, là, une des 47. Là. Alors là, ça fait des années qu'on dit là, il faut une voie de contournement. Il ne faut plus que les trains rentrent dans Mégantic pour qu'ils arrivent éventuellement à la même chose. Ça prend une voie ferroviaire qui contourne Lac Mégantic pour des raisons de sécurité notamment. Et là, Alec, il y a du mouvement, c'est le cas de le dire.
Oui, puis ça fait longtemps que les citoyens de Mégantic l'attendent, ce mouvement-là, parce qu'il y a eu des études qui ont été faites, d'autres qui sont en cours, combien ça coûterait faire cette voie de contournement-là, puis le fédéral avait toujours refusé de s'engager, ça dépendait de la facture, puis Québec attend après Ottawa, tu sais, bon, ça prend toujours un peu de temps. Là, il y a du mouvement, parce qu'effectivement, Marc Garneau, ministre des Transports, qui est responsable de ce dossier-là, vient d'affirmer en entrevue avec la presse depuis Israël, où il est en mission de 3 jours. Donc, visiblement, ça pressait. Il avait hâte de l'annoncer. Oui. Alors, en entrevue avec la presse, il a dit qu'une somme substantielle avait été réservée du côté d'Ottawa pour payer cette nouvelle voie ferrée-là. Que donc, ce n'était plus une question de combien et comment, mais bien de quand. Alors, on veut faire cette voie de contournement-là. On attend que la dernière étude de faisabilité et des coûts soit dévoilée, puis ça risque d'être dans les prochaines semaines. On dit que ça va être probablement d'ici le printemps. Et ensuite, on va essayer de s'entendre avec Québec sur le partage de la facture. Et
là, de 115 millions.
Ah, c'est ça. Entre 115 et 130 millions d'après les études de préfaisabilité. On verra si l'étude finale conclut à la même facture, mais ça serait entre 115 et 130 millions en tout. Et là, ce que Ottawa dit, c'est un projet qui n'est pas uniquement un projet d'infrastructure ferroviaire, qui est évidemment de champ de compétences fédérales. C'est un projet de reconstruction sociale. Parce qu'on a l'intention de contourner le centre-ville de Mégantic pour des raisons évidemment, comme tu l'as dit, de traumatisme aussi. Encore des wagons pleins de substances dangereuses qui passent au centre-ville de Lac-Mégantic. Et donc, la population là-bas a hâte que ça se termine. Donc, on dit qu'il y a une portée très sociale à cette voie de contournement-là. Donc, on voudrait que Québec paye une partie de la facture. À son bureau, on me dit on n'a pas chiffré à combien on voudrait que s'élève la partie Québec puis la partie Ottawa. Mais on s'attend à ce qu'Ottawa paye probablement la majorité de la facture, mais que Québec donne un coup de main. Et là, j'ai hâte de voir la réaction de Québec, parce qu'on a toujours été réticents quand même à Québec en se disant ben les chemins de fer, c'est de responsabilité fédérale. Si les voies ont été mal entretenues par la MMA à l'époque, c'est parce que vous avez mal fait votre travail de surveillance. La déréglementation n'a pas aidé. Bref, vous avez une grande partie au fédéral de responsabilité dans cette tragédie-là, donc payez la facture. Mais en même temps, on sait qu'on s'en va en année électorale. On sait que peut-être si tout bloque uniquement parce que Québec ne veut pas payer une partie de la facture, les gens de Mégantic ne seront pas heureux. Est-ce que les partis d'opposition vont se mettre là-dedans, promettre eux d'acquitter une partie de la facture? Regarde, je ne sais pas comment ça va jouer, mais clairement, du côté d'Ottawa, on dit on est prêt à payer une bonne partie de la facture finale, mais on voudrait que Québec donne un petit coup de pouce. Puis là, on attend la réaction de Québec, voir un peu à quoi ça pourrait ressembler, ce coup de pouce-là. Mais c'est clair là, que dans la tête à Marc Garneau, tout ça devrait être réglé, le partage de la facture, avant l'anniversaire, le triste anniversaire des 5 ans de la tragédie qui va être le 6 juillet prochain. Donc, on voudrait s'entendre à Québec puis que tout soit ficelé avant le 6 juillet. Puis ensuite, il resterait à construire la voie de contournement.
Très bien. Ce qu'on me dit aussi, Alec, juste en complément, c'est qu'il faut que les municipalités aussi autour de Lac-Mégantic s'entendent sur le tracé.
Mais oui, c'est vrai que c'est pas évident, ça.
Il faut que le gouvernement du Québec fasse sa part au niveau monétaire, mais il faut que les autres municipalités aussi trouve une espèce de compromis, parce qu'il y a un peu de pas dans ma cour aussi. Ben oui. Hein, c'est la voie ferroviaire, elle passe plus par Lac-Mégantic.
Elle passe ailleurs.
Elle passe ailleurs, parce qu'on en a besoin.
C'est un bon point.
Pour le commerce, justement.
Absolument.
Alors, voilà, on va s'arrêter. Et au retour, on garde Alec et on garde Antoine, parce que Antoine, tu vas nous parler des déclarations étonnantes de Pierre-Carl Péladeau.
Absolument.
Qui, comme jamais, depuis qu'il l'a quitté, envoie un signal qui est peut-être prêt à revenir dans un instant. Alors, de retour avec Alec et Antoine. Antoine, Pierre-Carl Péladeau, dans une entrevue à la radio de Radio-Canada, écoute, il a dit qu'il était en réserve de la République.
Quand on dit ça, ça veut dire qu'on est prêt à revenir en politique. Or, on est à 8 mois du déclenchement des élections. Le parti qui l'a mené, dont il a été chef, est quand même à 18 % dans les sondages. Ça va très mal. Donc, c'est clair que tout le monde va se tourner vers Jean-François Lisée pour savoir ce qu'il pense de ça. Est-ce qu'il va y avoir des militants qui vont finalement se dépêcher à voter des résolutions pour que on rappelle l'homme au bras levé? Moi, je pense que c'est très possible. Hein? Et c'est une entrevue qui devait porter sur la culture, sur le projet Éléphant, qui est un projet de Québécois là, pour restaurer les films québécois et leur donner une nouvelle diffusion.
Oui.
Mais lui-même, dans l'entrevue, a comme dit à l'intervieweuse, Catherine Perrin, qu'elle n'avait pas encore posé la question sur son possible retour en politique.
Il a suscité la question.
À quelque part, non seulement il s'y attendait, il a souhaité la question. Et dans les circonstances, c'est certain que c'est comme un... Je veux dire, on ne peut pas dire que c'était complètement planifié, mais il ne peut pas être inconscient à ce point que dans les circonstances, ça crée tout un malaise là au parti. Là. J'ai essayé d'avoir des commentaires tantôt.
Non, il n'en donne pas beaucoup, hein?
C'est ouais, c'est pas évident. Ouais.
C'est parce qu'il n'a pas juste dit qu'il est en réserve de la République.
Écoute, c'est fascinant, là. Réserve de la République. Il a dit mes affaires familiales et matrimoniales sont réglées. À un moment donné, il a parlé de sa fille Romy.
Ouais.
Qui lui a dit, on écoutait la télé ensemble, puis elle m'a dit, vas-y, présente-toi en politique.
Que c'est sa plus jeune.
Donc,
là.
Quelqu'un ouais. récemment m'a dit, c'est-à-dire tout à l'heure, m'a dit, ouais, mais toi, fais-tu tout ce que ta fille de 9-10 ans te dit? Je sais pas, moi, mais si j'en parle en public, peut-être que ce serait une manière de dire que j'ai envie de le faire. Après ça, il a dit, le Parti québécois est un grand parti. Ça, c'est la seule chose qu'on a accepté de commenter... au parti Bernard, oui. On m'a dit « Oui, ça, c'est vrai. » Puis que sa vie de famille, puis la vie de famille et la politique, c'est conciliable. Il a dit ça. Mais
ça s'appelle lever les obstacles les uns après les autres et surtout lever les raisons pour lesquelles il a quitté.
Exactement. Exactement. Le 1er mai 2016 qui est parti.
2016.
Et tu t'en souviens, toi? Je sais pas pourquoi tu t'en souviens.
Écoute, mais... attends, petit time out. Je suis dans une réunion présidée par le directeur général des élections. C'est le dernier projet de loi sur lequel je vais siéger, mais je ne le sais pas encore à ce moment-là. Okay. Je suis avec Rita DeSantis, qui est la ministre des Institutions démocratiques, puis la CAQ est là, puis QS. Puis je reçois un texto. Faut que je te parle. Urgemment. Arrête tout ce que tu fais. Je sors du meeting, je dis time out, écoutez, excusez-moi, il faut vraiment que je sorte, je sais pas pourquoi. Et là, on me dit, il s'en va. Je dis, de quoi tu parles, là? De qui tu parles, là? Le boss, le chef, il s'en va. Fait que ramène-toi à permanence.
Ben, anecdote pour anecdote, moi, juste avant d'entrer ici, dans le cocheron de Cogeco, ouais. ce midi-là, le 1er mai 2016, Je reçois le communiqué de Bruno Piercille qui dit « Importante déclaration à, je pense, à 13h, quelque chose comme ça. »
Oui.
De Pierre-Carl Péladeau. Puis là, je réponds à Bruno-Pierre Coudon, « Il s'en va-tu? » Puis là, Bruno-Pierre dit « Je ne commande pas. » Je dis « Voyons, que c'est ça, cette affaire? » Donc, j'entre en onde, puis je dis « Ah, on a reçu une convocation. » Puis après ça, effectivement, surprise totale, les bras...
C'était surréaliste.
C'est fou, hein?
Surréaliste. Alors, bref...
Donc, c'est un homme qui peut être surprenant.
Est-ce qu'il s'est échappé ou est-ce qu'il a dit le fond de sa pensée? Dans son entourage, on insiste pour me dire « Non, non, il est pas là. » Mais là, moi, je dis « Écoutez, là, si tu lis les déclarations, là, il me fait l'impression d'un gars qui est pas mal là. » Et je peux comprendre. Lisée doit pas être trop content de ça. Il s'en va en caucus demain, à partir de demain, Jean-François Lisée. Hein, il est à Shawinigan. Ouais. Il est en conseil national en fin de semaine à Saint-Hyacinthe.
En plus,
imaginez-vous. Ben oui. Ça, c'est une méchante pleure de banane.
Puis, bon, chez Québécois, et je connais la boîte, on nous dit, ben il y a plein de projets, voyons donc. Il a réitéré son appui à Jean-François Lisée. Donc, qu'est-ce que tu veux quand ton grand patron intervient comme ça sur la place publique? Ça nous met dans cette situation comme chroniqueur politique de commenter. Qu'est-ce que tu veux?
Eh oui, et c'est ce qu'on fait.
Comme en fin de semaine, j'ai fait ma chronique où j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec lui sur certaines déclarations sur l'aide aux médias. Hein? Il y a eu de l'aide, évidemment, à Capital Média ici, à Québec et au Soleil, puis dans les 6 journaux régionaux. Puis, monsieur Péladeau dit laisse entendre que les journalistes sont devenus des marionnettes du pouvoir. Moi, je ne suis pas d'accord. Je l'ai dit, puis j'ai le droit.
Puis il y a de l'aide, bien sûr, on espère.
T'as encore ton emploi, félicitations.
Puis il y a de l'aide, versée au Devoir aussi. Là. Est-ce que les journalistes du Devoir, depuis que l'aide a été confirmée au Devoir, est-ce qu'ils sont...
Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que Michel David devienne un meneur de claque libéral?
Non, je ne penserais pas.
Ça serait étonnant.
Très, très, très étonnant. Il nous reste 2 minutes, mon cher Alec. Bouclons la boucle sur l'international et tout le commerce, parce que là, Justin Trudeau est à Davos et il s'apprête à prendre la parole.
En fait, il a déjà pris la parole. Il est rendu tard à Davos. Ah, Ben donc, oui, bien sûr, bien à cause sûr. Du décalage horaire. Donc, oui, il parlait donc en fin d'après-midi là-bas à l'Assemblée des participants, les 2500 participants du Forum économique mondial de Davos. Mm. Il a été question beaucoup dans son discours de Justin Trudeau, évidemment de commerce international. Je vous le disais, il a ouvert sa conférence sur la signature du partenariat transpacifique, mais il a parlé aussi beaucoup d'égalité homme-femme, d'ouverture des frontières en général, du fait qu'il y a beaucoup de travailleurs qui se sentent exclus de la croissance économique mondiale, que les inégalités sociales augmentent et que c'est aussi la responsabilité des entreprises de combattre cette fracture-là qui est en train de se créer. Donc, je vous ai isolé un petit extrait mm-hmm. avec l'aide de notre réalisateur, Jean-Christophe. Donc, voici à quoi l'un des moments où Justin Trudeau parlait justement de ces gens qui sont un peu laissés derrière par l'ouverture des frontières et qu'il faut s'en préoccuper lorsqu'on signe de nouveaux accords.
Les gens se sentent à l'écart. Ils sont fâchés et ils blâment les secteurs publics et privés. Nous sommes témoins d'un moment important. Nous ne pouvons pas répéter les erreurs du passé. La croissance économique doit générer des retombées réelles pour nos communautés. Les accords commerciaux doivent à tous les jours offrir de meilleures occasions à nos citoyens. Et les entreprises doivent prendre au sérieux leur obligation à l'égard des travailleurs qui sont à leur service et à l'égard des communautés qui les appuient.
Et que j'ai de la misère à me concentrer sur le fond quand je l'écoute en français en particulier.
Oui, il est toujours très lyrique. C'est le professeur de théâtre. Qu'est-ce que tu veux? Ça
ressort. Oui, mais c'est du mauvais théâtre. Tu sais.
Ça ressort. Alors voilà, il a parlé aussi beaucoup des femmes qui sont encore trop peu présentes dans les postes de décision des entreprises. Une grande partie du discours portait sur les femmes en entreprise en disant qu'il devrait...
Il a parlé des femmes.
Oui, à peu près comme ça. En disant qu'elles devaient avoir beaucoup plus de postes
importants.
Dans la haute direction, notamment.
Excusez-moi.
Non, mais c'est ça, ça ressemble
j'essaie
à
ça. J'essaie de travailler mon imitation. Là.
Ben écoute, c'est pas si mal, mais en fin de chronique, à un moment donné...
Oui. Bon, alors... Et rapidement, pour dire qu'il a annoncé un conseil consultatif sur l'égalité des chances pour les femmes, puisque le Canada a la présidence du G7 depuis ce mois-ci, l'année. Il va y avoir le grand sommet du G7 en juin à Charlevoix. C'est ça. L'éco-présidente de ce conseil consultatif-là du G7, ça va être Melinda Gates. Et Isabelle Hudon, qui est maintenant
ambassadrice.
Voilà, ambassadeur du Canada en France, à Paris voilà. Et qui était auparavant à la Sun Life, entre autres, et à différents postes de direction dans les entreprises.
Très bien, très bien. Hey, on a réussi à faire un bon tour d'horizon. Alec, mm-hmm.
Et puis, il y en aurait eu encore à dire, parce que moi, j'avais ma carte soleil. Il faut reparler de ça, Bernard.
Oui, demain, OK?
C'est un outrage au patrimoine, au matrimoine.
Alec Castonguay, chef du bureau d'enquête politique au magazine L'Actualité, est celui qui ne veut pas se taire.
Oui,
Antoine Robitaille, chef du bureau d'enquête parlementaire du Journal de Montréal. À demain.
À demain.
Loïc, dans un instant, l'International.